En France, le travail est une norme. Il permet de nous assurer une place et des droits au sein de la société. Le champ des arts dits appliqués a ses modalités et ses particularités, mais il n'échappe pas à cette convention. L'emploi qu'occupent les designers ou le milieu dans lequel ils évoluent est important. Cependant, il semble que les formes qu'ils créent soient principalement au centre des discussions et tendent à les définir.
Nous sommes trois designers de formation et ce constat nous a inspiré une idée. Nous avons créé Contreforme, une collection de récits d'expérience qui s'intéresse à l'environnement des designers plutôt qu'à leur production. À chaque épisode, nous allons à la rencontre d'un praticien ou d'une praticienne, plus ou moins confirmée, dans le lieu de son choix. Il ou elle est graphiste, scénographe, designer d'objets ou de mode. Ce moment passé ensemble est l'occasion d'évoquer son cadre et son mode de vie, ses habitudes personnelles de mise au travail et ses refuges méditatifs.
Il est 20h, le 17 juillet dernier, lorsque nous arrivons à Aubervilliers chez Célestin, designer graphique et illustrateur. En sortant du métro, une grande avenue bruyante, puis des rues plus calmes bordées de maisons, et, enfin, celle dans laquelle vit Célestin, en colocation avec des amis. Il vient de terminer sa journée dans l'atelier de création graphique parisien où il travaille. Comme de nombreux designers graphiques, il travaille en freelance à temps plein, au sein d'une structure qui le rémunère à la journée. Il s'agit d'une pratique assez répandue, que beaucoup appellent du salariat déguisé. Il y conçoit, entre autres, des affiches, des signalétiques, des éditions et des identités visuelles pour des institutions culturelles. Célestin, tu nous as proposé de te rejoindre chez toi. Oui. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ?
Pourquoi chez moi ? Parce que je finis le travail à 19h et que voilà, c'était le plus simple. Pour se retrouver rapidement et pour être dans un endroit tranquille où on peut parler et où on a de la place.
Donc tu as abordé la question de l'horaire, qui est une question qui nous intéresse pas mal aussi. Mm-hmm. 19h tous les jours. Mm-hmm. Et tu habites loin de l'endroit où tu travailles.
Tu as 40 minutes, métro ou vélo, porte à porte.
Du coup, c'est une maison.
Oui.
Et ça fait assez peu de temps que tu habites dedans.
Ouais, ça fait un an qu'on s'est installé avec Kevin. Godkowski, on va donner les noms. Saloméa, Jacquet, sa copine, et Cyril, ma cool.
Est-ce que ça traduit quelque chose d'important par rapport à ta vie, à ta pratique ?
Et là, Cyril, il est aussi graphiste indépendant. Kevin, il est artiste. Saloméa, elle est designer mode indépendant. Donc, on est tous dans des économies très précaires. Mmh. Puis, on en avait marre de payer des toutes petites surfaces très chères à Paris.
Donc, toi, par exemple, tu travailles ici ?
Moi, pour l'instant, je travaille presque pas ici parce que je travaille tous les jours en agence. Moi, je l'avais envisagé en me disant, le jour où j'en ai marre de travailler dans une agence et je sais que je passe à une économie encore plus précaire, je veux un endroit qui est moins cher et où je me sente bien et si je veux, je peux y travailler.
Donc c'est un choix pour le présent et pour le futur.
Complètement.
Est-ce que tu peux nous parler de soit une journée type, soit une semaine type ?
Bah en gros, moi, mes horaires de journée, c'est faut que je sois là à peu près à 9h30, ce qui arrive assez rarement. Donc, je suis là avant 10h, on va dire. Ça se finit à 19h, donc du coup, ça fait que je me lève vers 8h le matin. Y a des journées, typiquement en ce moment, là, c'est très très calme parce que c'est en juillet. C'est des journées qui me paraissent un peu longues. Mais c'est des rythmes. Comment dire. Je pense que j'ai pas vraiment de journée type.
Ok.
Une des raisons qui fait que je veux plus travailler dans cette agence ou dans les agences, je sais pas encore, c'est aussi ce truc de des journées comme ça, 9h-19h tous les jours, où qu'il y ait beaucoup de travail ou très peu de travail, bah, tu restes, tu fais ton truc.
Oui, donc des horaires de bureau.
Voilà, et si tu veux deux jours, t'es obligé de les demander. Ça commence à me... Ouais, au final, ça peut être agréable. Parce que c'est un vrai cadre de travail et dans lequel tu es assez efficace. Mmh. Je crois que j'ai jamais été autant efficace qu'avec ce cadre-là. Mais en même temps, moi, je trouve ça ultra contraignant. Et là, j'ai envie de commencer à essayer autre chose. Quoi. Alors, avant de travailler pour cette agence, j'ai passé un an et demi à Berlin. Là, c'était encore un cas assez particulier, où donc j'étais en stage, mais finalement ils n'avaient pas vraiment énormément de travail à me donner, donc je faisais ce que je voulais. J'avais fait 6 mois chez eux et ensuite j'étais resté 1 an à Berlin, là à travailler vraiment tout seul quoi.
Ouais.
À faire de l'illustration et un peu de graphic design. Donc là j'avais eu ce rythme là où j'ai pas d'horaire, j'ai pas de patron, c'est pas grave si je suis en retard quoi. Mm. Si j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Si j'ai envie de travailler jusqu'à 2h du matin, je travaille jusqu'à 1h du matin. Et donc c'était à la fois ultra agréable parce que t'es maître de ton temps. Et en même temps, l'autre côté qui est de travailler seul, d'être assez seul, mm. plus le temps que tu passes à essayer de te faire payer, ça a d'autres contraintes quoi. Et donc, je suis rentré à Paris et je me suis dit que j'allais réessayer vraiment de faire un travail un peu plus normal, on va dire. Où justement, voilà, t'as des horaires, t'as un salaire qui est fixe, mais t'es pas en train de te battre avec des clients pour qu'ils te payent. Donc là, les deux, j'ai essayé les deux, je vois ce qui me plaît pas dans les deux. Il faut que je trouve une autre forme encore. Là.
Alors, est-ce que tu penses qu'il existe une autre forme?
Ça, c'est la grande question.
Pour les designers, d'être soit en freelance, soit en agence?
Pendant longtemps, il y avait cette question de me dire, bon, je me rends compte que j'ai quand même du mal à travailler pour quelqu'un, à avoir, même si c'est là où je travaille, le rapport hiérarchique, il est très agréable et c'est pas un... Je suis pas oppressé, quoi. Il y avait quand même cette idée, à un moment, je pense comme beaucoup de gens, de se dire, pour pas travailler seul, est-ce que refonder encore une agence, encore un studio de jeunes graphistes...
Dont tu serais à l'initiative.
Voilà, et au final, moi j'ai l'impression... Mais il y a soit des indépendants qui sont plutôt des groupes, des duos, quoi, ou un peu plus. Je pense que eux, ça fonctionne parce qu'ils ont une économie... Enfin, très légère, quoi, où ils n'ont pas des gros locaux à payer et une grosse équipe et des gros machins.
Ouais.
Mais ils travaillent énormément, quoi. Mmh. J'ai l'impression que personne n'a un modèle facile, là. Il n'y a pas une solution miracle. Là, en ce moment, c'est un espèce de grand questionnement. J'en suis même passé à un moment à me dire, est-ce que c'est pas être en indépendant, travailler pour des trucs un peu horribles, mais qui payent très bien. Si ça me permet de financer, on va appeler ça une activité politique qui est très, très floue pour l'instant.
Okay.
Mais qui veut dire que si je travaille pour eux, là, c'est pas pour m'enrichir, moi, pour me faire une petite vie confortable qui m'intéresse. Enfin voilà, bien sûr que le confort, mais c'est pas le but. Et dans ce cas-là, j'aimerais essayer de voir. Est-ce que mentalement je peux tenir ça ou pas?
Ouais. Et tu penses que tu peux?
Je sais pas.
Ok.
Mais ça fait partie des. Parce que j'ai pas le choix, il faut que je trouve un moyen de gagner des sous, quoi, parce que j'ai pas le choix. Voilà.
Et est-ce que là, dans l'agence dans laquelle tu travailles,
ouais.
Du coup, en CDI ou en freelance?
Freelance.
En freelance, ok, en agence.
Ouais.
Est-ce que tu te sens déjà en décalage avec ces convictions politiques que tu commençais à aborder?
Dans l'agence en elle-même, non. Mmh. Mais les gens avec qui on travaille, oui.
Les clients?
Ouais. Parce que dans l'agence, voilà, c'est toujours pareil, c'est des petits groupes, on n'est pas beaucoup. C'est plutôt des gens qui viennent, toi c'est les mêmes milieux que moi, qui ont fait les écoles des beaux-arts ou les arts décoratifs. Toi, on n'est pas en train de faire du marketing.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur les clients? Enfin,
ouais.
Évidemment, pas les noms, mais pour quel genre de projet tu travailles?
Il y a un peu deux grands types là où je suis dans cette agence. Il y a une grosse partie qui sont des institutions publiques, on va dire culturelles, musées, juste comme ça. Et il y a une autre partie, je crois que ça s'appelle des établissements publics d'aménagement.
Ok.
Donc c'est des choses gérées par l'État, d'aménagement du territoire.
Et donc c'est par, par rapport à ces clients-là, du coup, c'est là que tu peux sentir un décalage
Oui. Parce que moi, il y avait ce truc-là, d'avoir essayé de travailler en freelance. Donc, tu n'accèdes pas forcément à des projets, enfin, tu vas dans des projets assez confidentiels. Et j'avais quand même, moi, cette image de. Ouais, des institutions publiques, surtout des musées, par exemple, où avec eux, tu pouvais quand même toucher pas mal de gens en proposant aux gens des choses intéressantes, des formes intéressantes. là ça fait 2 ans que je travaille avec eux, enfin dans cette agence, donc avec ce genre de clients. Plus ça avance et plus j'en peux plus, quoi, c'est vraiment enfin ça ne m'intéresse plus, quoi. C'est des gens qui ce qu'ils proposent, comment ils travaillent, comment ils considèrent ce qu'ils appellent le grand public. Il y a tout un... Enfin voilà, c'est des gens qui ne sont vraiment pas intéressants, quoi.
Okay.
Et qui n'ont pas envie d'être intéressants. Et voilà.
Et concrètement, comment ça va à l'encontre alors de tes... toi, de tes idées, de tes convictions, de tes envies de faire?
Pour moi, une institution publique, ça a un rapport avec l'intérêt général. C'est le service public, c'est à tout le monde. C'est pas au président qui la dirige. C'est pas au ministre qui l'organise, c'est à tout le monde. Pour moi, cette logique-là, surtout dans les musées, surtout en France, avec cette idée très assez vieille de démocratiser la culture, de donner l'accès à la culture à tout le monde, j'imaginais ça, mais peut-être que j'ai complètement fantasmé ce truc, d'être à la fois dans une démocratisation, mais super exigeante, quoi, et où on prend pas les gens pour des idiots, et où le but d'un musée, le but principal d'un musée, c'est pas de vendre des tickets, quoi. C'est, toi, dans l'idéal, c'est presque l'éducation populaire de haut niveau, quoi.
Ouais.
Et du coup, moi, je pensais que des gens qui pourraient véhiculer ce genre d'ambition, se retrouvaient ces ambitions-là dans le travail qu'ils pourraient faire avec des graphistes, par exemple. Ça devrait, pour moi, ça devrait être des territoires où les graphistes y travaillent et où on essaye des choses. On est exigeant dans ce qu'on dit aux gens, dans comment on le dit, et on leur donne pas une soupe juste pour qu'ils viennent acheter un ticket, quoi.
Donc toi, tu te trouves très contraint, en fait, même avec en tant que graphiste et avec tes outils de graphiste, de pas pouvoir faire ça.
C'est même pas contraint, c'est juste que c'est impossible. Mais toute l'agence, tu vois, ça c'est vraiment les clients, parce que l'agence, des fois, on hallucine tous, tu vois, ou... Tu deviens plus exigeant par rapport au contenu qu'ils proposent, par rapport aux messages qu'ils font passer, que l'institution elle-même. Et que des fois, tu es obligé de la rattraper en disant « Mais attendez, là, vous dites ça, et ils s'en fichent, par exemple. Toi. Et tu sens que, par exemple, quand ils te demandent, je sais pas, de faire un programme, un truc, des fois, le programme en soi, ils s'en fichent, quoi. C'est « Il faut qu'il y ait un truc, quoi. » Et puis, les gens, ils viendront, quoi. Et comment on leur parle, l'exigence qu'eux devraient mettre dedans,
ouais.
Il n'y en a pas, quoi.
Ouais. Donc c'est terrible, en fait. Deux ans de déception.
Ouais. Et puis c'est un énervement. Et puis t'as l'impression de te battre. Ça, c'est le plus dur, je pense. Tu te bats pour essayer pour pouvoir faire ton travail correctement, en fait. Et que le graphiste, comme il a pu exister, je sais pas, dans les années 80, 90... avec un statut comme ça un peu, je sais pas, un peu respecté, quoi, par les institutions, il a complètement disparu, quoi. On est des espèces de petites machines qui doivent enregistrer le bon vouloir des communicants, quoi. Et voilà. Et on parle pas la même langue, et c'est compliqué, quoi. On n'a pas les mêmes objectifs, quoi.
Est-ce que tu trouves un moyen, du coup, autre part que, et à un autre moment qu'entre 10h et 19h en agence,
ouais,
de te battre?
Moi, je viens d'une famille assez... moi, j'ai des parents communistes, c'est-à-dire que j'ai toujours eu une éducation assez politique. Ça s'était bien calmé un peu à l'école, à l'école des Beaux-Arts de Lyon, parce que là, j'étais complètement... J'étais en train de faire quelque chose qui me satisfaisait complètement. Et c'est un peu comme si la politique s'était un peu évanouie, quoi.
Ok.
Et là, le retour au travail, d'être confronté à ça, plus ce qui s'est passé en France, là, ce qui se passe en France depuis 8 mois, ça a complètement réveillé tout ça, quoi. Mm-hmm. Donc là, on parle des gilets jaunes, quoi. Et quand ça a commencé, au début, j'étais un peu sidéré, et en me disant, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça m'a pris une semaine pour me dire ok, c'est une espèce de révolte venue de nulle part, comme ça, un peu étrange, qui n'est pas chimiquement pure de la gauche, quoi. Et donc au début, un peu d'appréhension, notamment ici, dans cette maison, justement, avec mon coloc, on a bien discuté et on s'est vite dit qu'il fallait qu'on rejoigne tout ça rapidement, quoi. Au tout début, à la télé, c'était incroyable de regarder France 2. Même BFM TV, où il y avait des mecs comme ça qui racontaient leur vie, leurs problèmes et tout. tout ce qu'on pouvait reprocher, une espèce de vie sociale hiérarchisée, comme ça, pleine d'humiliation, tout ça. Moi, j'ai vu un peu les mêmes structures dans le travail, quoi. Mmh. Où, quand tu travailles dans une institution où il y a 10 couches de hiérarchie, et quand tu montres un boulot à quelqu'un, il va le montrer à son chef, qui va le montrer à son chef, qui va le montrer à son chef. Et à chaque niveau, ils vont détruire ce que tu as fait. Et c'est impossible. Toi, t'es englué dans des espèces de mécanismes comme ça qui font que c'est un combat, mais de malade, pour juste faire les choses correctement, quoi. Et moi, du coup, il y a plein de choses comme ça qui sont...
Des parallèles que t'as fait, en fait.
Ouais, où je me suis dit, en fait, voilà, là, c'était des gens qui réclamaient... Tu vois, c'est pas mon milieu, c'est pas... Je pense que c'est des gens qui vivent bien moins bien que moi. À des échelles différentes et à des échelles de gravité différentes. Peut-être qu'on fait face aux mêmes structures et aux mêmes... Et donc ça m'a fait, avec des copains, quoi, aller... je crois qu'on s'est fait quasiment tous les samedis jusqu'au 1er mai. Ouais, juste de discuter tout ça, déjà, c'est intéressant. Il y a des gens qui tu peux même pas discuter. Surtout dans nos milieux, qui sont un peu particuliers là-dessus.
Pourquoi ?
Parce que je pense que c'est un... Je pense que les graphistes, c'est un... Je pense que ça va de la classe moyenne basse à des gens qui viennent, ouais, qui sont vraiment plus bourgeois, quoi. Mm-hmm. Et du coup, c'est intéressant pour ça, mais c'est marrant à quel point ce truc des gilets jaunes a révélé des frontières sociales ultra vite, quoi. Mm. Où voilà, moi, ça m'a pris une semaine, mais je me suis dit, leur combat, c'est le mien, tu vois. Et ça devrait être celui de tout le monde. Mm. Et il y a des gens qui, soit, ne s'y intéressent même pas.
Par manque de temps, tu penses ?
Non, par manque d'intérêt. Je pense que c'est des gens qui, quelque part, sont dans leur vie, ça va, tu vois. Il n'y a pas trop de problèmes, ils gagnent correctement leur... Mm. Ils gagnent assez d'argent. Je sais pas, ils sont avec leurs potes, et puis voilà.
Pas de question.
Bah, t'es vite face à ce truc de, ouais, la politique, hein, c'est chiant, je sais pas quoi,
Mais peut-être aussi par difficulté de le réinjecter après dans leur travail. Comme tu disais, c'est dur, en fait, d'être confronté à des clients qui s'en fichent, dont c'est pas du tout les problématiques. Et...
Ouais, mais si tu veux, moi, vite, par exemple, je me suis dit, c'est pas dans mon travail que je vais réinjecter cette colère, on va dire, ou ces espoirs, tu vois. C'est pas du tout dans mon travail. C'est un autre ça. Après, c'est un engagement personnel de dire, moi, justement, qu'est-ce que je peux faire ? Et là, donc je me dis, je vais commencer très humblement. Voilà, là j'ai des petites affiches qui arrivent et tout. Là je vais voir tout ça, là je vais faire la première avec mes sous. J'ai déjà commencé à trouver 2-3 potes qui sont chauds pour aller les coller avec moi. Puis on va voir, toi. Et c'est rien du tout, mais déjà c'est un début de tout petit truc.
Donc ces formes autoproduites dont tu parles, voilà, c'est plutôt des affiches donc ?
Pour l'instant.
C'est toi qui les finances ?
Pour l'instant,
ouais. Ouais. Comment t'organises ça, en fait ? Parce que justement, on parlait au début d'une économie plutôt précaire, et là, tu décides de mettre de l'argent, en fait, dans quelque chose qui va absolument rien te rapporter, au final. Enfin, en tout cas, de monétairement.
Ça pas, ouais, j'ai pas un retour sur investissement. Bah là, j'ai eu quelques boulots à côté qui m'ont bien payé, et du coup, ça, c'est mon argent de côté. C'est ce qui me permet de m'arrêter aussi, parce que bien sûr, il n'y a pas de chômage. Et en vrai, j'ai aucune idée. C'est juste que là, je me dis, il faut que... j'ai cette envie, tu vois, mais ça va commencer modestement. Je vais pas mettre 5000 balles, tu vois. Je vais essayer de voir ce que ça produit chez moi, chez les gens qui sont autour de moi. Parce que justement, chez les Gilets jaunes, il y a des mecs qui ont des initiatives, là, des trucs qui s'appellent Plein d'eau, la page jaune, et qui ont l'air d'arriver à se financer à peu près, au moins la production. De peut-être rentrer en contact avec eux, voir comment eux ils se financent, j'en sais rien. Là, c'est pareil, tout est un peu en chantier, quoi. J'avais même pensé, je sais pas, au financement participatif, j'en sais rien, tu vois.
Qui fait ça, en fait ? Est-ce que c'est le Parisien, le Français, le graphiste, le citoyen, le gilet jaune, tout le monde ?
C'est tout ça, parce que... Je pense que c'est le Français, ça, c'est la culture de gauche, familiale, amicale... C'est le citoyen, on va dire, c'est le graphiste, on va dire graphiste citoyen, ça c'est sûr, au sens où moi ce qui m'a amené à me dire qu'il fallait que je fasse ça, c'était différents trucs, c'était de voir que ce mouvement existait énormément sur internet, énormément sur Facebook, qu'il y avait plein de visuels que les mecs créaient eux-mêmes, qui sont hyper cool parce que c'est une espèce de truc genre grand amateurisme il y a plein de trucs. Et voilà, moi, je travaille dans le Marais. Et donc, tous les jours, je fais cette navette Aubervilliers-Marais, Marais-Aubervilliers. Et je passe dans deux mondes complètement différents toute la journée. Quand il y avait ces semaines incroyables en novembre, décembre, les samedis, c'était vraiment incroyable. Et après, de retourner dans le Marais la semaine et d'être vraiment dans un environnement où c'est comme si, mais absolument rien ne s'était passé, que il n'y a pas de problème et tout. Et ce que je trouvais intéressant, c'était... au début, je me suis dit, c'est quoi ce truc de graphiste, de refaire des affiches? Et en fait, je me suis dit, c'est marrant parce que justement, sur Facebook, tout ce qu'eux produisent, tu le vois parce que c'est parce que tu t'abonnes à ces groupes-là, parce que dans tes cercles... Moi, je me souviens qu'au tout début, justement, des Gilets jaunes, dans mon fil Facebook d'amis, il n'y avait rien. Genre, il n'y avait mais rien du tout. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et pour un peu comprendre qui c'était ces gens, qu'est-ce qu'ils avaient en tête, qu'est-ce qui était en train de se passer, du coup, moi, je suis allé m'abonner des pages, des trucs pour voir...
Ça ouvre les perspectives.
Ouais, pour voir qu'est-ce qu'ils se racontent, qu'est-ce qu'ils essayent d'organiser, comment ça se passe. Tu vois, les manifs, c'est où, c'est quand, machin. Là, revenir à la rue, c'était intéressant parce que finalement, on coupait ce truc de réseau. On sait que ça fonctionne comme ça, là, les algorithmes où tu vois ce que tu as envie de voir. Voilà. Et si tu n'as pas quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, est un peu relié à ça, tu ne verras jamais rien. Et du coup, de revenir à ce truc de la rue où, a priori, tout le monde peut le voir. C'est dans le réel, c'est là. Et après, c'était ce truc aussi. Ça, j'en avais pas mal parlé avec Kevin, du coup, mon coloc aussi, de designer un peu des objets. C'est un design mais très, très simple. Ce que j'ai fait, c'est pas du tout, c'est pas une démonstration graphique, je sais pas quoi. Je sais pas, ouais, des gens qui sont designers, qui viennent d'un milieu qui a priori n'est pas le milieu qu'on imagine être celui des Gilets jaunes, tu vois, et qui font ça, qui sont avec eux, quoi, qui comprennent complètement le truc.
Ça, t'en as rencontré?
Vite en manif, après voilà, ce sont mes amis, j'ai beaucoup d'amis graphistes, et vite en manif, je me suis retrouvé avec des graphistes, mais c'était ceux que je savais, on était tous déjà ultra, ultra à gauche, quoi. Moi, ça me paraissait important qu'il y ait des objets, et ça me paraît important vu qu'il faut les faire, qu'il y ait des objets un peu, je sais pas, parce que moi j'ai vu ça avec les Gilets jaunes, une expression qui est un peu revenue, et qui maintenant est débattue, qui vient, ce truc de mépris de classe, quoi. Où d'un coup, ils étaient dépeints comme vraiment, mais. La lie de l'humanité, quoi, des cutéreux incultes, c'était hardcore. Et d'un coup, j'avais vu cette défiance des gens comme ça, un peu de gauche, un peu bourgeois, qui disaient « Oui, bon, ils ont raison de se révolter, mais quand même, qu'est-ce qu'elle est moche, leur rébellion, franchement. Puis on voit pas des... ils ont pas l'air très fins, enfin vraiment des réflexions comme ça où tu sais, mais
on voudrait être séduit par les formes.
Ouais, vous voulez une révolte séduisante, vous voulez une révolte comme vous l'imaginez, vous êtes des malades, quoi.
Mais toi, les formes que tu envisages, elles sont séduisantes quand même, non?
Oui, je sais pas, je me dis, moi je pense que c'est ultra utopique qu'il y ait peut-être par l'intermédiaire de formes qui peuvent se rapprocher un peu plus de ce qu'ils peuvent eux. Par exemple, c'est des gens qui sont beaucoup plus sensibles, je sais pas, au climat. Même aux migrants, tu vois.
Ouais.
Et c'est des sujets qui, quelque part, je pense, sont plus éloignés d'eux. Et du coup, ils sont plus sensibles à ça. Il n'y a pas de question là-dessus, quoi. C'est vraiment terrible, il faut faire quelque chose.
Il faut accueillir les migrants, voilà. Il faut sauver la planète.
Et d'un coup, et c'est marrant, quoi. Et pour moi, quand tu penses ça, quand tu te bats contre le réchauffement climatique, pour l'accueil des migrants, tout ça, tu peux pas cracher sur des mecs qui... C'est le même combat, quoi. Et bref. Donc d'essayer de voir si, par des formes, peut-être, en amener quelques-uns petit à petit. Et après, en tant que citoyen graphiste, c'est ce truc de... Il y a d'autres institutions qui s'appellent les écoles, quoi. Et voilà, et nous, on est allé à l'école publique, on a presque rien payé. Et il faut rendre ça. C'est tout, quoi.
Qu'est-ce que t'entends par rendre ça?
Bah nous, on a eu une éducation trop bien. On est formé à faire un métier, à le faire bien. Et cette formation, on l'a eue grâce à, les impôts, le service public, une espèce de construction, de l'idée de l'intérêt général, où tout le monde paye un peu pour tout le monde, quoi. C'est presque un retour, quoi. Tu vois, je me dis, quelque part, tout le monde a payé mes études, tu vois. Moi, j'ai appris des choses particulières qui peuvent peut-être aider.
Du coup, il faut que je réutilise.
Justement, il faut que je redonne ce que je sais faire. Et ça serait trop facile, toi, d'avoir une éducation bien et de s'en sortir tranquille et puis de dire, les cutéreux, je m'en fous, tu vois.
Tu disais qu'à l'école, justement, tu étais hyper passionnée par ce que tu faisais, mais qu'il n'y avait absolument rien de politique dans les formes que tu pouvais créer. Comment t'expliques que ça a été mis en sourdine pendant tes années de...
Parce que je pense que ce qui était politique pour moi à l'époque, c'est d'être dans un espace. Moi, je me suis toujours dit ça quand j'étais à l'école aux Beaux-Arts et qu'on était même pas 15 dans notre classe et qu'on avait quasiment 10 profs. Mm. Je me suis dit, mais tout le monde devrait avoir ces conditions-là. C'est incroyable. Mm. Ça a fait toute ma culture... pas politique du coup, mais sur plein d'autres choses, quoi. Quelque part, là, quand t'es à l'école, t'es dans une communauté, t'as l'impression... C'est ça qui est politique, quoi, presque, toi.
Ok.
Et vu que t'es quand même entouré de choses qui t'intéressent de ouf et que t'es plongé dedans, c'est trop intéressant. Et tu sais que tu vis à un moment particulier qui s'appelle l'école. Mm. Et après, je pense que c'est plus, du coup, c'est ce truc de sortir de l'école, boum, confronté au travail, boum, reconfronté à, d'un coup, ce... un peu, toi, un peu, je sais pas, la vraie vie. Où t'es plus qu'avec des gens qui te ressemblent un peu, qui sont intéressés par les mêmes trucs, et t'as des grandes discussions super intéressantes. Tu te rends compte que c'est un luxe et que ça n'existe pas en fait. T'as l'État, une société qui t'apprend tout ça, et après, de le mettre en pratique. Tu vois, j'ai jamais retrouvé professionnellement un moment où j'ai vraiment pu réinvestir tout ce que j'ai appris à l'école, tu vois, jamais.
Ok.
J'ai jamais eu aucun projet, tu vois. Et voilà, c'est une espèce de mélange comme ça de... Découvrir ce que c'est vraiment, être vraiment précaire, qui fait un retour politique, toi. Mm. C'est qu'il y a aussi longtemps cette idée que les gens ils s'en foutent et que quelque part beaucoup de gens acceptaient cette situation. Et de voir ça, ceux que tu pensais qu'ils bougeraient pas, bah c'est eux qui se mettent en mouvement et d'une manière incroyable. Mm.
Massive.
Et ouais, et puis radicale et trop intéressante. Voilà. Mm. Après, je me suis dit, bah, si nous, là, la gauche, là, si nous, on fait rien, là, on pourra plus jamais rien dire, alors, mais plus jamais, quoi. Faut qu'on plonge là-dedans. Et justement, quand il y avait des débats au début, mais c'est l'extrême droite, c'est l'extrême gauche. Au tout début, la première fois que je suis allé, c'était avec mon frère, Cyril, Kevin. Et au début, la première fois, c'était presque plus en observateur. Mm. Tu vois, en se disant, bon, on va voir, tu vois. C'est qui ces gens, tu vois. Mm. C'est le premier samedi où il y avait des barricades en feu sur les Champs-Élysées. Et ce qui m'a rassuré assez vite, c'est justement les premières pages que j'ai trouvées où j'ai commencé à lire les commentaires, les trucs, voir qu'est-ce qui... C'est... Idéologiquement, il y avait quoi, là. Mm. Et ultra vite, j'ai retrouvé des références, mais tout de suite, quoi, à la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, on va reprendre nos droits de citoyens, enfin, truc genre, vraiment républicain, c'est trop marrant, quoi, une espèce de retour à la radicalité républicaine de la Révolution française. Ça, mm. Moi, ça me plaisait beaucoup. Et voilà, eux, ils m'ont donné une énergie là-dedans, de ouf, quoi. Enfin, je dis, moi, j'ai une culture politique, j'ai toi, une famille politique, des choses comme ça. Il faut que, d'une manière ou d'une autre, j'arrive à joindre ce truc pour voir ce qui peut se passer quand tous ces gens-là se trompent.
Par rapport à cette culture politique, du coup, je rebondis. Ouais. Tu nous as parlé un petit peu de climat familial, en fait. Ouais. Est-ce que, comment, toi, tu l'alimentes autrement? Peut-être en parlant de lecture, de films.
Je pense qu'il y a quand même une énorme partie qui a été faite clairement par la famille du côté de mon père. Ses parents, lui, étaient au Parti communiste. Lui est au Parti communiste. Mm-hmm. Moi, j'ai été au Jeunesse communiste. Un an, je suis parti. Je pense que ça m'a fait une grande base quand même sur ce que les gens appellent, ce qui me fait toujours rigoler, les valeurs. Voilà. Où tous ils te disent oui, nous défendons les valeurs.
Pourquoi
de la République.
Ça te fait rigoler?
Parce qu'ils ne t'expliquent jamais quelles sont leurs valeurs. Ils te disent les valeurs. Voilà. Et après, c'est ce truc de. Je sais pas, moi je pense que c'est mon père et ma mère, comme ce truc de. Assez basique d'empathie, politesse, de respect. Mm. Et après, un espèce de truc quand même contre l'injustice et aussi contre l'autorité qui, du coup, est un peu compliqué au travail aussi.
Ouais.
Et après, c'est, je sais pas, au lycée, ou petit à petit, tu vois, je sais pas, le CPE. Après, il y a des moments comme ça où tu te formes un peu. Et je pense que ça... Après, ça n'a jamais vraiment disparu. Mais il y avait ce truc où, voilà, quand les gens, ils ont élu Sarkozy, tu vois, t'es là... Pff, bon, bah, les gens, ils veulent ça, ok, tu vois. Et ça te dégoûte, tu vois. Et après, tu mets Hollande au pouvoir en disant, bon, j'y crois, mais pas du tout, mais on va voir.
Ouais.
Et voilà, et le mec, il t'enchaîne comme Sarkozy. Mm. Parce que même Nuit Debout, moi, par exemple, je regarde ça de très loin. en me disant, c'est quoi ce truc de...
Mais ça correspond aussi à tes années où tu étais étudiant en Nuit
parisien,
debout.
Quoi. Mais j'étais à Lyon,
ouais. Ouais, c'est peut-être ça aussi.
Je sais plus trop. Mais j'étais assez sceptique là-dessus. Peut-être que j'étais un peu bête. Je suis pas du tout allé.
Mais tu vois, je sais pas, toi tu dis peut-être un peu bête. Moi, je le mets en lien avec le fait que, comme tu dis, tu étais étudiant et tu t'attachais à d'autres choses. Mmh. Et que peut-être, du coup, tu étais moins dans ça aussi, parce que ça correspond à ces années-là, en fait.
Il n'y a rien de plus fort que voilà, t'es plongé dans le monde du travail. Mmh. Bah voilà.
Mais c'est ça, t'es obligé en
d'un
fait.
D'un coup, tu vois tout ça vraiment, quoi. Mmh. Tu vois l'application de tout ça, quoi. Mmh. Et ça devient plus un discours abstrait sur l'organisation du travail, l'organisation des institutions, les rapports hiérarchiques.
Et c'est quelque chose qu'on nous apprend peu en école d'art.
Pas du tout.
Enfin, dont on nous parle jamais en fait.
Mais limite, tant mieux, parce que je sais pas, moi, l'école, ça m'a fait un socle intellectuel, tu vois, de culture qui fait que d'une manière ou d'une autre, je sais à peu près où je suis, toi.
Ok.
C'est assez ultra vague, mais de quel côté je suis, toi.
Et de quel côté tu es.
Toi, je sais pas, il y a un moment politiquement, il y a un peu moins ça, mais il y avait des discours un peu genre anti-intellectuels. Puis ce truc, là, des chaînes de télé, bah, toujours proposer de la merde. Les débats politiques qui sont nuls. Enfin, tu vois, c'est jamais dans une exigence intellectuelle, jamais. Il faut toujours aller le chercher dans des trucs particuliers. Mais il y a cette idée que oui, il y a un certain savoir qui de fait, que ça soit organisé ou pas, n'est pas pour tout le monde. Mmh. Et le truc de l'école, moi je sais que ça m'a fait ça aussi. J'ai vu le chemin intellectuel et j'ai vu celui de certains de mes amis qu'on a fait en 4 ans. Où donc oui, c'est accessible à tout le monde. Mmh. Où t'arrives, t'as 20 ans, où tu crois que tu connais plein de trucs, et tu te vois toi-même changer parce qu'on te nourrit de ça. Donc tu sais que si tu nourris tout le monde, bien sûr, il y a des gens plus ou moins réceptifs,
ouais.
Mais de partir du postulat que oh, les gens ils s'en foutent, tu vois, on voit ça au cinéma, on voit ça même ouais, dans les musées, des retours qu'on a des fois du travail qu'on produit.
Ouais. Par exemple, que les gens n'ont pas compris ou des choses comme ça.
On nous dit c'est très beau, c'est très intéressant, ça je lis le texto, mais ce n'est pas assez grand public, c'est un peu trop élitiste. Qu'est-ce que vous entendez par élitiste? Et les gens qui te disent ça, tu vois, c'est les directeurs de communication.
Mais de l'élite.
Voilà, c'est ce qu'on m'a appelé l'élite. Ouais. C'est pas une élite, tu vois, mais bref. Et t'es halluciné parce que Sidaria, c'est toujours pareil. Sidaria, ils avaient un discours en t'expliquant vraiment pourquoi ils te disent ça et qu'est-ce que ça veut dire pour eux et que du coup, comment on pourrait faire que je sais pas quoi. Mais c'est juste un constat. Ah oui, non, c'est un peu trop élitiste donc.
Ouais.
Mais c'est très beau. Hein. Ce truc des gilets jaunes là, c'est marrant depuis. Moi, vu que ça m'avait ramené à la Révolution française, ça a commencé tout doucement. Je me suis rematé des films.
Quoi par exemple?
Bah, il y a un film qui est assez cool, qui est un peu nul. qui est une commande de Mitterrand pour le bicentenaire,
okay.
Qui s'appelle La Révolution, je crois. Il y a tous les grands discours, les trucs, qui est ultra caricatural, mais qui est pas mal quand même. Parce que par exemple, à gauche, chez les communistes, il y a quand même une culture robespierriste, tu vois, qui est décrit comme un grand personnage méchant. Ces trucs comme ça à mon père, il m'a jamais dit Robespierre c'est très bien, ou je sais pas quoi, ou donner des textes, mais il y a un discours ambiant comme ça, où pour moi, Robespierre, c'était pas un monstre, quoi.
Okay.
C'est un mec qui s'est bien battu. Je suis allé sur Wikipédia, des petits écrits de Robespierre. Et voilà, là, je suis en train de me relire tout ça, là.
Okay.
Marat, Robespierre. Parce que c'est les mêmes questions, ça. C'est incroyable. Mm. C'est des trucs écrits il y a 200 ans, ce que dit Robespierre sur la liberté d'expression, le droit à se battre contre la tyrannie, la subsistance minimum du peuple, la liberté. C'est ouf, quoi. Ça s'applique, mais mot pour mot encore, quoi. Donc,
ça te décourage pas?
Ah non, c'est trop beau.
En fait, on sent que tu es extrêmement engagé et que ça peut être vraiment radical. Et en même temps, au début de l'entretien, tu évoquais quand même la possibilité de peut-être temporairement créer pour ton ennemi, entre guillemets. T'engager dans des projets qui seraient vraiment commerciaux, peut-être plus publicitaires, etc. Ouais. Comment tu penses faire la part des choses, justement?
Je pense que c'est un peu schizophrénique. Mais en fait, c'est juste de... En fait, là, j'essaie de réfléchir à comment je peux gagner des sous
en passant le moins de temps possible, tu vois. Pour avoir du temps pour faire autre chose. Comme ça, c'est pas quelque chose qui m'enchante, tu vois, l'idée de faire ça.
J'imagine.
mais je me dis... je sais pas si c'est ultra clair dans ma tête, quoi. Que tout l'argent que je gagne là-dedans me sert à construire des gens de ma meilleure. Mais... Voilà, je sais pas. Je sais pas très bien vu que j'ai pas essayé, que c'est une option parmi d'autres, et certainement d'autres que je connais pas encore.
Merci.
Si.
Beaucoup. Pour cet entretien, Célestin.
Nous adressons un grand merci à Célestin de nous avoir fait confiance et d'avoir ouvert le bal. À toute l'équipe de Dieu Radio pour son soutien et l'hébergement de nos ondes. À Clara Borgen, notre monteuse magicienne. Et à Kevin Gotkowski pour la musique de l'émission. À bientôt pour le second épisode de Contreforme. Contreforme est un podcast créé par Manon Bruet, Nivine Chekoun et Serena Evely.